Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 4 juillet 2026. On se retrouve pour l'archive de l'architecte épisode 12 et on part pour le récapitulatif de l'actualité financière de cette semaine avec un marché du travail aux États-Unis, des créations d'emplois en deçà des chiffres attendus, 57 000 contre 110 000. Et au final, ça a eu un bénéfice immédiat du côté des actions et des crypto-monnaies. Moins de pression sur la Fed, baisse des rendements obligataires, le dollar qui stoppe sa hausse et finalement un soulagement du marché actions. Avec ce dollar donc qui recule un petit peu et les rendements obligataires qui deviennent moins intéressants. Les investisseurs continuent de penser que l'économie mondiale ralentit et ça limite donc le risque d'un durcissement monétaire à court-moyen terme de la Fed qui, souvenez-vous, à peine une ou deux semaines en arrière, commençait à discuter d'augmenter les taux une à deux fois, y compris sur cette année en 2026. C'est exactement le petit ralentissement qu'on a pu avoir donc ces une ou deux dernières semaines, y compris petit à petit sur les prises de bénéfices des très grosses sociétés, notamment celles qui étaient liées à l'IA et qui faisaient toute cette traction boursière complètement folle qu'on connaît depuis plusieurs trimestres désormais. Côté actions, le marché reste donc très concentré sur l'IA, semi-conducteur, cloud, cybersécurité, ça n'a pas changé. Le Dow Jones s'inscrit un nouveau record historique, tandis que le S&P 500 est proche de ses sommets. Le Nasdaq, quant à lui, consolide sur les prises de bénéfices récentes. Côté Europe, on se surprend positivement, avec des secteurs ayant bien profité, notamment dans l'Eurostoxx 600. Alors on parle notamment de la défense, les banques, ainsi que les secteurs de l'industrie et du luxe qui, petit à petit, on l'avait vu pour LVMH, Hermès, etc., un petit peu le cœur du luxe à la française, eh bien, on est en train d'essayer de se reprendre. Les dépenses des hyperscalers continuent d'augmenter, que ce soit en interne ou pour le futur, les CAPEX. Donc, pour l'instant, tout va bien et le marché semble se dire que sur ce second semestre 2026, il n'y aurait potentiellement pas besoin d'augmenter les taux pour la Fed, notamment si petit à petit on a comme ça les chiffres d'emploi qui reculent. Et on va voir le chiffre qui aura son importance, vous en doutez bien, ça reste l'inflation qui est vraiment pour la Fed le point noir à court terme et qui est à 4,2 points, souvenez-vous. On devrait avoir des publications qui nous conduiront vers les 3,9, on regardera ça en introduction de l'analyse technique, mais pour l'instant, voilà, ça reste quand même assez compliqué de ce côté-là. Or et commodités plus obligations, le Brent évolue autour de 72 $ le baril. Les craintes autour du Moyen-Orient sont atténuées très largement. On a un or qui repart légèrement à la hausse avec un dollar un peu plus faible, le rendement obligataire en baisse, l'anticipation de la Fed moins agressive. On a en effet l'or qui rejoue son rôle donc de réserve de valeur pleinement dans un marché qui se stabilise. Côté obligataire, en effet, on a le rendement donc des obligations qui recule après les chiffres du chômage. Ce qui fait que ceux qui ont sécurisé aujourd'hui le 20 ans, le 30 ans autour de 5 points, voire un petit peu au-dessus de 5 points, eh bien, sont plutôt pas si mal foutus aujourd'hui par rapport au prix auquel ils ont pu sécuriser tout ça. Et tout ceci a eu pour effet, donc, notamment sur la fin de semaine, d'apporter un soutien supplémentaire aux actions de croissance. Et parfois, petit à petit, on peut qualifier ça, et quand on observe la bourse au niveau des domaines dans leur ensemble, de rotation sectorielle, et c'est très certain. Certainement ce que vous avez dû, pour ceux qui font un petit peu plus de bourse traditionnelle, voir apparaître du côté des réseaux sociaux. Le Bitcoin et la crypto, donc le BTC reprend des forces après être venu brièvement sous les 57-58. Toujours pas de catalyseur majeur pour le domaine. Les flux institutionnels seront soumis à la prochaine décision de la Fed, et notamment autour des taux et de l'inflation. Les achats nets ETF, puisqu'on a eu 3-4 milliards, je crois, qui sont sortis ces dernières semaines, donc ça n'était pas rien. Publication macro en juillet, donc on reste tout à fait data dépendant pour le BTC. La tendance de fond du cycle de 4 ans reste jusqu'ici intacte. Le point bas final pourrait être trouvé entre cet été et l'automne 2026, donc on n'en est plus très loin finalement, tout en ayant bien en tête que déjà, comme on a fait moins 55% du côté de Bitcoin, on pourrait autour de 60 000, peut-être grand maximum, voilà, 50 000 $, finir par trouver ce point bas. Et si derrière ça déraille un petit peu comme ça l'a fait sur les fins de cycle baissier de ces fameux bear market sur les cycles précédents, on pourrait même visiter en dessous de 50 000. Mais c'est vrai que aujourd'hui, au niveau du consensus, il y a tellement de gens qui se disent oui, c'est sûr qu'il ira beaucoup plus bas, etc., en se basant justement sur le passé. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'avenir et se dire que de toute façon et de toute évidence, on ne peut pas prédire l'avenir et il faut se mettre une box comme on s'est mise entre, voilà, 40 et 60 000. Si 60 000 était le point final de bear market ou un peu en dessous aujourd'hui, eh bien, on continue notre DCA et plus tard, ça nous invitera à continuer un DCA, même si le Bitcoin est reparti à la hausse. Et je pense que fondamentalement, tout le monde sera content de cet état de fait. Si le marché crypto dans son entièreté est repropulsé pour un tour, pour quelques mois, quelques trimestres à la hausse, et si le point bas n'est toujours pas fait, eh bien, on a notre box, on a notre horizon de temps, comme le mettait en avant la dernière fois un utilisateur qui faisait son petit DCA pour 6 mois et qui était pour l'instant en train de travailler très dur en Australie pour justement essayer d'atteindre un objectif, je crois, de 0,5 Bitcoin d'ici la fin de l'été ou l'automne, voilà, sur 6 mois roulants. Et c'est vrai que c'est intéressant finalement de se fixer comme ça des objectifs qui peuvent permettre, eh bien, par la suite d'en profiter très largement. La semaine prochaine, à suivre, publication minute de la Fed, bien entendu, le crédit à la consommation aux États-Unis. Il y aura également pas mal de données économiques en Chine avec l'inflation, la consommation, mais pas que. Et enfin, les annonces d'entreprises en amont de la saison des résultats du second trimestre. Donc un été qui sera pas si chargé que ça, mais un été qui porte les espoirs justement de ce qui va se passer autour de cet automne 2026. Il y a les midterms de Trump en novembre et voilà, un second semestre où il va falloir être attentif. Au niveau de l'inflation, donc on était à 4,2 pour mai, on a un forecast à 3,9, ça sera la statistique donc qui va définir pas mal de choses pour la suite. On espère repartir en effet au cours de cet été dans une trend baissière. Ceci étant dit, on part de tellement haut qu'en effet, chaque 0,1 point pris à la baisse sera des points qui vont compter justement pour que la Fed n'augmente pas ses taux en 2026. On part au niveau de l'analyse technique avec le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité du S&P 500 qui repart vers le bas et qui donc pour l'instant ne signe pas d'alerte majeure du côté du marché américain, tandis que le S&P 500 clôture la semaine à l'équilibre, 7483, a pris une belle progression et donc pour l'instant on a un petit triangle ici de consolidation. On va voir comment ça va se passer. Le dollar qui a reculé donc depuis les 101.8, on clôture la semaine à 100.8. donc là, d'un point de vue purement technique, on pourrait revisiter les 100 points tout court, venir s'appuyer sur la zone de sortie, une belle et longue zone de travail, mais ça va être encore et toujours data dépendant, tandis que au niveau des indices monde CW8 et WPEA, on vient chercher donc les ATH à 684-685 €, le CAC 40 à 8500 points pour la France, pas très loin également de son ATH qui est aujourd'hui autour de 8639. Le pétrole, on revient pas dessus, on est autour de 70 le baril, on l'a vu tout à l'heure. On a l'Eurostox 600 qui s'arrache à l'os, donc à 650 quasi 3 points. Et là aussi, on a eu une très très belle progression. On parle tout le temps des États-Unis puisque c'est vrai, c'est un énorme moteur, mais on a quand même fait là en quelques semaines plus de 16-17%. Donc c'est quand même, pour ceux qui ont une diversification aujourd'hui, loin d'être anecdotique dans un portefeuille bien diversifié. Il est à noter qu'on continue également pour le Money Supply, le M2 Stocks des États-Unis et de la Federal Reserve, de progresser positivement. Donc on n'a jamais eu d'histoire de bourse américaine autant de liquidités disponibles. Et il nous faut désormais un peu quelqu'un à la barre qui dise, eh bien, on n'augmentera pas les taux en 2026. Et j'ai l'impression que Kevin Warsh, pour le moment, n'a pas envie justement de jouer un petit peu à l'apprenti sorcier au niveau de cette nouvelle direction de la Fed. Et c'est ce qui fait qu'on aura peut-être un été un peu plus en flottement plutôt que directionnel. Mais là aussi, je ne m'avancerai pas parce qu'on a vu les étés où on s'attendait à ce qu'il ne se passe rien. On s'est quand même pas mal fait surprendre. Donc, comme d'habitude, tout sert d'expérience, j'ai envie de vous dire, sur les marchés. Le gold de 4175, donc après être revenu à 3943, le marché commence à retrouver un petit peu son appétit. Les oscillateurs sont en train de fléchir. Je ne dirais pas que c'est le point bas final là par rapport à la correction de l'or, mais autour de 4000, quand on voit qu'on vient quand même de 5600. Pour un petit DCA ou pour ceux qui se rongeaient le sang de ne pas avoir pu rentrer sur l'or, eh bien, c'est déjà une zone qui, je suppose, pouvait commencer à devenir intéressante. On passe du côté des cryptos avec le crypto total qui englobe absolument tout, 2140 milliards. Alors 2000 milliards aujourd'hui, on se dit que c'est déjà pas si mal pour le marché crypto, mais quand on regarde le reste de la finance dans son ensemble, eh bien, on a encore vraiment pas grand-chose, et notamment quand on compare aux super sociétés américaines qui à elles seules justement pèsent 2000, 3000, 4000, 5000 milliards, c'est complètement dingue. Donc là, on est en train de backtester la moyenne mobile 200 par en dessous. Il faudrait repasser au-dessus, elle est à 2170. On a une belle zone de confluence également autour de 2300 milliards. On essaie de faire des contrôles. La moyenne mobile 20 qui arrive par le nord et toute cette zone autour de 2500 milliards. Et ensuite, pour plus tard, La véritable démarcation qui nous dira « Ok, on est véritablement reparti en bull run », ça se trouvera entre 2900 et 3000 milliards. On voit qu'on a une belle zone de travail ici. On a la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100. Donc pour le moment, on est encore très très loin d'être sorti du sable pour le marché crypto. Et force est de constater qu'on est quand même pas mal dans les clous de ce que ça a fait en 2022 et en termes d'action de prix et en termes de timing. Et on voit que plus tard, le moment où vraiment on est sorti de ce bear market, c'est le moment où on retravaille durablement autour de la MM50. Ça va nous laisser tout l'été ici pour qu'elle replonge en direction du cours autour des 2500 milliards. Et je vais passer par la suite vous faire la traduction en termes de prix du côté de Bitcoin, puisque là, sur le crypto total, c'est peut-être pas le plus bienvenu de votre côté pour comprendre ce que je dis en termes de prix. Mais ça reste intéressant quand même de regarder un petit peu comment les choses se font. Et ça reste tout aussi extravagant et intrigant de se dire que bah, peut-être le marché va faire exactement ce qu'il a toujours fait jusqu'à présent sur ce fameux cycle de 4 ans. Si ça le refait encore une fois, c'est qu'il y a une force supérieure derrière Satoshi Nakamoto. C'était peut-être un voyageur du futur, un extraterrestre ou je ne sais quoi, mais il y a quand même quelque chose en Bitcoin et en cette cyclicité de 4 ans qui est assez extraordinaire, si ce n'est que on peut peut-être l'expliquer beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus simplement par le fait qu'il y a beaucoup de prophéties autoréalisatrices en finance. Il y a un truc également à surveiller au-delà du crypto total 2 qui est toujours dégradé mais qui tente de se stabiliser à 900 milliards, c'est le crypto total 3 qui était venu au contact de la MM200 et qui s'est stabilisé à plusieurs reprises autour de 640 milliards et on va voir ce que ça va donner, mais peut-être que les alts n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Ceci étant dit, quand on parle d'alts aujourd'hui, les dossiers solides sur lesquels potentiellement on pourrait venir se frotter pour les prochaines années, eh bien, ils comptent sur les doigts d'une main la plupart du temps. On corroborera ça avec une Bitcoin dominance qui aujourd'hui est à 58,3, donc elle est plutôt orientée sur cette fin de bear market à la baisse. On pourrait revenir chercher jusqu'à 55%, voire même un peu en dessous. Je pense pas que ça aille beaucoup plus bas, mais si un jour il y a retour des altcoins, on pourrait avoir une Bitcoin dominance qui joue finalement entre les 50 et les 55%. On aura toute cette partie ici qui sera une zone de travail, et sachant que sur ce cycle, on était quand même venu en juin 2025 jusqu'à 66% de dominance, tandis qu'en novembre 2022, on était à peine à 40%. Ether qui essaie de se raccrocher aux branches, et c'est plutôt cool de le voir se défendre un minimum. Donc on a défendu à deux reprises pour le marché les 1500 dollars tout pile. Il faudra reprendre dans un premier temps les 2000 à 2150 avec une belle zone de passage également à 2350, 2400, voire 2450 où nous attend la MM200. Pour Ether, c'est un petit peu la même musique. On pourra parler de retour de cycle haussier plus tard lorsqu'on travaillera durablement dans un premier temps au-dessus de 2150 à 2450 et a fortiori valider ce cluster ici des 2800-3000, ce qui nous permettra peut-être une accélération en bonne et due forme derrière. Je perds toujours pas espoir sur la seconde crypto-monnaie du marché. On avait une divergence ici avec deux fois le RSI qui est complètement à plat et qui a été payé par en tout cas les acteurs du marché dès lors qu'on s'est approché de la zone de survente, tandis que le cours nous fait deux points qui sont plus bas que les précédents ici. Donc on va voir ce que ça pourrait offrir plus tard. Ça reste toujours une position malgré tout qui, vu que sur le cycle précédent elle a été très dégradée, n'encourage pas à mettre des 1000 et des 100 qui sur le papier a malgré tout un risque de ruine plus haut, beaucoup plus haut que de juste détenir du Bitcoin. Mais aujourd'hui, mis à part les maximalistes ou ceux qui vraiment veulent n'avoir que du Bitcoin en portefeuille et que c'est mûrement réfléchi, voulu, peu importe les considérations ou les motivations qu'il y a derrière, c'est vrai que pour quiconque s'intéresse au marché crypto, le plus gros de la position, bien entendu, ça restera BTC. Mais après, n'avoir qu'un seul actif comme ça en portefeuille, je trouve ça un petit peu dommage. Au vu de l'immensité du secteur, c'est pas pour autant que le secteur a pas beaucoup de problématiques à résoudre et de trucs qui se sont démontrés vraiment pas porteurs du tout au travers du temps. Il y a beaucoup, beaucoup de déceptions. Mais c'est aussi un petit peu le propre de l'innovation et c'est ce qu'on a connu dans les années 2000 autour d'Internet et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors pour le meilleur meilleur et pour le pire. Mais je pense qu'il faut pas toujours, en fonction d'une action de prix à un instant T, jeter absolument tout par la fenêtre. On a MicroStrategy qui se reprend en fin de semaine. Après être venu chercher 82$, il revient à 100$, à plus 8%. Également Circle, le marché a payé dès lors qu'il est venu autour de 65$. On a même méché à 61-62. Ça reste compliqué avec cette information donc, qui était parue la semaine dernière, désormais, si je ne dis pas de bêtises, d'un stablecoin donc avec toutes les plus grosses banques mondiales derrière. Et Coinbase donc, qui continue de défendre dès qu'on vient à 140-145$. De retour à 165, il faut percer les 180 à 200-205$ pour Coinbase. On viendra par la suite trouver une autre résistance à 240-245 et par la suite c'est plutôt free. Donc une action qui, contrairement au cycle précédent où pour ceux qui étaient rentrés dessus et moi le premier, eh bien on avait tous souffert ensemble et on s'était ramassé à moins 92% du côté de Coinbase, j'ai quand même la sensation que sur ce cycle, elle nous fera un petit peu moins souffrir comme du côté de Bitcoin. Et pour l'instant, à ce jour, elle avait reculé que de 68-69%, ce qui est déjà pas si mal. Côté action américaine, on a Netflix qui défend sa moyenne mobile de 100. C'est plutôt cool de voir ça. Belle divergence. Pour ma part, ça a été payé même avant tout ça. J'avais commencé à l'époque à payer ici à 75 dans ces eaux-là. J'ai repayé un petit peu plus haut, 80-85. Donc aujourd'hui, j'ai un prix de revient qui reste positif. Je continue de payer. On va voir comment ça va se passer pour Netflix. On était quand même sur un gros support autour de 70$. Donc derrière, j'espère vivement qu'ils vont trouver les nouveaux moteurs de croissance pour leur propre activité. Et dans un premier temps, d'un point de vue technique, on pourrait viser 82-83. S'en suivra la MM20 autour de 89. Et ensuite, la véritable résistance du titre devrait se trouver quelque part entre 95 et une centaine de dollars où nous attend MM100 et MM50 semaines. Take-Two pour la sortie de GTA 6 en novembre qui continue de se diriger vers son ATH, 255$. On a un ATH autour de 265. On va voir ce que ça pourrait donner. Mais là aussi, quand bien même on jouerait le breakout, etc., ça me paraît un petit peu tard pour entrer sur ça quand on a eu l'information de GTA 6 en mai 2023. Donc vous vous doutez bien que quand même aujourd'hui, normalement, les choses sont à peu près pricées. Il n'y aurait que des résultats véritablement extraordinaires sur les ventes qui pourraient faire décoller le titre. Microsoft qui continue de batailler, donc après avoir défendu l'immense support des 350$ au contact de la MM200 à 390, ça se passe pas mal. On a Robinhood également, 112-113, donc il a repris toutes les moyennes mobiles, c'est très clean, très propre. On avait une belle défense ici, 0,618 à 64$ et on est aujourd'hui à 112-113, donc déjà un x2 en à peine 2 mois de temps. Ça va très très vite parfois sur les actions américaines. On avait Apple également qui s'est repris, donc après des annonces de plusieurs sorties d'iPhone d'ici la fin d'année, ça continue de faire un petit peu le yo-yo, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, Apple quand même ont prouvé au travers du temps qu'ils étaient relativement forts. Ceci étant dit, là, on n'a pas franchement envie de la payer autour de 300$ et plus. Le bon moment, bien entendu, c'était avril 2025 avec les tarifs de Trump, 175$, 180 la MM200. Aujourd'hui, elle se trouve autour de 210, ce qui fait que un retour sur cette dernière nous permettrait d'acquérir Apple autour de -32-33%. Ça sera pour les plus patients d'entre vous qui attendront le prochain crash qui arrivera dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On en a là aussi aucune idée, mais ça vous donne une idée à peu près de combien peuvent baisser même les super titres. Et du côté de Nvidia, la dernière fois, je crois qu'on était à -60%, quelque chose dans ces eaux-là. Je vais revérifier quand même pour pas vous dire de bêtises, mais vu la progression folle qu'elle a eue ces dernières années, un retour à la MM200, en effet, c'est $105 pour Nvidia, et donc on était sur environ -46% par rapport au cours aujourd'hui, et par rapport au top, on était à -55-56. Donc pour un titre qui, à peine 4 ans en arrière, en 2022, juste avant qu'il y ait l'apogée des semi-conducteurs, etc., avait perdu pas loin de 70%, dites-vous bien que le -30-50, ça arrivera un jour ou l'autre, comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps du côté de Apple, comme ça arrive sur Microsoft, comme ça arrive sur Netflix, comme ça arrive sur absolument tout. Même Robinhood, il n'y a pas si longtemps, elle avait beaucoup perdu. Donc comme d'hab, est-ce que vous voulez petit à petit faire un DCA sur ce type d'action qui ont eu une croissance complètement vertigineuse et des espoirs pour le futur, j'allais dire des expectations. D'ailleurs, difficile de dire, même si en français, on ne peut pas dire des expectations, ou enfin, je ne pense pas que ça existe en français. Il faudrait que j'aille vérifier mon dictionnaire, mon petit Larousse. On est à mi-chemin entre les espoirs, les guidance et tout ce qui va bien. Et c'est vrai qu'à force de consulter aussi du contenu en anglais, parfois, ça devient très difficile de s'y retrouver et de vous retranscrire ça en direct, puisqu'il n'y a pas de script sur cette émission. Et c'est ce qui fait quelque part aussi l'authenticité de ce format depuis désormais 7-8 ans. Ça se fera 8 ans ouais, en 2027. Donc aujourd'hui, bon, vous me pardonnerez au niveau de la dialectique et des mots quand on traduit comme ça à la volée en anglais et en français. Mais pour revenir à nos moutons, c'est vrai que le plus patient qui se constituera une poche de cash et qui continuera d'investir peut-être sur des trucs un peu moins volatiles jusqu'à ce qu'on chope des dizaines de pourcents à la baisse, eh bien, sera celui qui peut-être dormira un petit peu mieux sur ses deux oreilles au vu de la volatilité de la tech ces dernières années, tout en ayant bien en tête que si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans supplémentaires à déclencher à nouveau un moins 20, moins 30 et au-delà, moins 20 du côté des indices, on va dire, et des moins 30 à moins 50%, y compris du côté des grosses capitalisations, ça peut prendre un certain temps. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, eh bien, on n'a pas envie de voir partir le fameux train sans nous, on n'a pas envie de ne pas détenir du Nvidia aujourd'hui, alors que ça semble être sur le papier eh bien, le banger pour les prochaines décennies. Et pour autant, bah, quand on voit une telle progression, on ne peut que se demander qu'est-ce qu'il y a à gratter aujourd'hui sur une société capitalisée comme ça, 5000 milliards. Est-ce que le train finalement n'est pas déjà passé pour cette société, quand bien même ça serait la première à venir chercher 10 000 milliards et à nous offrir comme ça, eh bien, au niveau de sa capitalisation, 1x2, est-ce qu'on n'a pas beaucoup mieux à aller chercher ailleurs? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut réfléchir quand on investit justement son argent. Côté français, j'ai rien vu d'extraordinaire honnêtement cette semaine. Ça a un petit peu fait le yo-yo, mais on voit qu'on a des moins 1,60 à plus 2. J'ai regardé un petit peu à gauche, à droite. Pour l'instant, c'est pas extraordinaire. On a la progression donc de Airbus qui continue. Comme je vous disais, on l'avait bien spot en amont tout ceci. On se demandait si c'était un bear flag ou si ça allait péter par le nord. Et on a eu donc la résolution suite au travail de cette belle zone entre 156 et 170 euros qui est partie à la hausse. Donc aujourd'hui, Airbus a un ATH à 221 euros et se trouve autour de 206. Du côté des altcoins pour le marché crypto, on a Solana qui continue de prendre de la force face à ETH. Donc ça, c'est plutôt positif. Et face au dollar, eh bien, on est au contact de la moyenne mobile 20 et on a repris cette fameuse zone des 80 dollars. Donc peut-être l'accélération à venir jusqu'à la zone des 106-107 où nous attend l'AMM 200 pour Solana. Et ensuite, on aura le gros bloc plus haut autour de 140-150 dollars où nous attendent moyenne mobile 50 et moyenne mobile 100. Ceci étant dit, ça en fait un actif qui est relativement lisible là d'un point de vue technique. On n'a pas des trucs dans tous les sens, etc. Donc c'est plutôt agréable pour une fois. AAV, pareil, au contact de la moyenne mobile 20, c'est toujours très dégradé en hebdomadaire. On a eu le petit rebond récent, beaucoup de tokens qui avaient été échangés. Si ça passe, on visera dans un premier temps les 115 à 137 dollars où nous attend l'AMM 200. Hyper liquide, non loin de ses ATH 71,47 ce matin, avec un ATH autour de 77 dollars tout pile. Ceci étant dit, les oscillateurs sont déjà très haut perchés, donc à voir ce que ça pourrait offrir au cours du prochain cycle, les 100 dollars et plus, why not, sur cette fin de bear market. Est-ce qu'on va refaire une petite tirette vers le bas au cours de cet été slash début d'automne pour enfin avoir des prix un peu plus attractifs par rapport à l'action de prix en cours, puisque pour ceux qui l'ont chopé précédemment à 20 dollars, voire en avril 2025 autour de 10 dollars, je pense qu'aujourd'hui ils sont plutôt safe pour la suite, pour Hyperliquid. Pour ceux qui ne sont pas encore dedans, peut-être ici autour de 40, voire dans le pire des cas, autour d'une trentaine de dollars, entre 28 et 32 dollars. Ça pourrait faire sens. En tout cas, aujourd'hui, je pense que rien ne sert de courir derrière cet actif, si ce n'est que c'est vrai qu'il a démontré une résilience au cours de ce bear market qui dépasse absolument tout ce qu'on a pu voir sur d'autres tokens ou altcoins. Après, comme d'habitude, ça reste un actif jeune, donc en termes de ratio risque-ruine, on a quand même un potentiel qui est beaucoup, beaucoup plus important que des trucs qui sont là depuis des années et qui parfois font beaucoup moins, bien entendu, d'un point de vue du price action que Hyperliquid, mais qui ont démontré leur résilience justement sur parfois jusqu'à 10, 15 ans et plus du côté de Bitcoin et Ethereum. BNB contre le dollar qui arrive au contact de la MM200, donc petite zone de confluence autour de 570$. On vient en provenance de 1377, pas mécontent d'avoir vendu entre 1200 et 1300 sur ce cycle. C'était la fin du bag de BNB et notamment des BNB qui à l'époque avaient été acquis quelque part autour de 3, 5 à 10 dollars. Donc ça, c'est pour le petit historique justement de ceux qui ont eu la chance d'être là en 2019-2020. C'était complètement dingue et une période dont on reparle régulièrement entre nous, notamment sur le Discord pour la classe 2020-2021, où on se demande si un jour de mémoire de marché, on revivra quelque chose ainsi. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu un petit truc similaire du côté des semi-conducteurs, de la photonique, de tous les petits sujets annexes liés autour de l'IA. Mais dans la mesure qu'il y a eu déjà premièrement en 2017, janvier 2018, et ensuite entre 2020, on va dire automne 2020 à fin 2021, je pense qu'on avait rarement vu quelque chose ainsi. Et pour ceux qui ont été primo accédant à la bourse slash crypto par les cryptos, les fameux crypto natifs au cours de 2021. Je suis vraiment pas sûr que même de notre vivant, on revive quelque chose qui soit aussi intense, qui soit aussi énervé avec tous les jours des centaines, des milliers de pourcents qui pètent un petit peu de tous les côtés. C'est peut-être ce qu'ont vécu dans une moindre mesure ceux qui ont spéculé sur les mêmes coins là, sur ce cycle là, mais j'ai même pas l'impression que ça ait profité finalement à grand monde. On clôturera avec la Asie, on a Alibaba qui essaie de se raccrocher aux branches, c'est toujours très dégradé, donc en l'état, tant qu'on n'a pas un peu plus de lisibilité, personnellement, ça m'intéresse moyen. Le Japon, 20 ans, qui recule légèrement, mais toujours très haut perché, proche de son ATH. Nintendo, qui également a tenté la percée cette semaine à 7,47, mais qui se fait un petit peu repousser. Ceci étant dit, ça fait 2-3 mois qu'on a énormément de titres qui sont exécutés ici. On avait Tencent, qui continue d'être dégradé, mais qui a été payé autour de la moyenne mobile 200. Attention, quand je dis payer, c'est le marché qui paie. Quand moi, je paie quelque chose, je vous le dis directement. Donc pareil, pour l'instant, je suis en observation. Je passe peut-être à côté de quelque chose, mais j'ai pas envie de me jeter à corps perdu là-dedans sans totalement maîtriser et comprendre ce que je fais. On avait le Shanghai Composite, pareil, qui a fait un peu de volatilité cette semaine. Le Topix pour le Japon à 4064, proche de son ATH. On avait Xiaomi, pareil, qui rebondit un petit peu, mais qui risque de venir s'empaler par en dessous autour de la moyenne mobile 200. Et enfin, le Nikkei qui a clôturé à quasi 70 000 points, plus de 19 et sur une bougie un peu toupie d'indécision. Donc si on regarde d'un point de vue mondial, on ne croit toujours pas apparemment au grand ralentissement, à la stagflation. Tout le monde se dit que l'été va gommer un petit peu tout ce qui s'est passé autour de Hormuz et de l'Iran et que ça ira un petit peu mieux autour de l'automne, fin d'année, maximum début 2027. Je suis dubitatif sur tout ça, mais pourquoi pas, avec peut-être une croissance inespérée qui viendrait justement de cette rotation multisectorielle et qui permettrait à la bourse de nouveau de s'en tirer à bon compte, tandis qu'on l'a vu, l'économie risque malgré tout autour de cet été de ralentir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un excellent début de week-end. On se retrouve lundi. D'ailleurs, j'ai failli oublier, lundi, gardez vos boosts. N'hésitez pas à booster la vidéo lundi 9h qui sort sur les retraites. C'est vraiment un très gros bloc pour nous. Donc, vidéo très importante. N'hésitez pas à la diffuser un maximum autour de vous. On reste toujours factuel, on rentre pas dans le dramatique. Ça n'est pas orienté clash, ça n'est pas orienté pour essayer de faire s'opposer des générations. C'est systématiquement du concret, du factuel, du pragmatique sur une comparaison d'une époque envers une autre. Les difficultés d'une époque et aujourd'hui, les points positifs ou non qu'on peut avoir en termes de confort, par exemple, de vie sur cette nouvelle génération par rapport à 1970-1975, mais aussi bon nombre d'autres problématiques liées au marché de l'emploi, les salaires, etc. Et là, donc, on en arrive à la fin de cette mini-série de 5 épisodes avec ce chapitre sur les retraites qui, je pense, va vous éclairer et surtout va ouvrir bon nombre de questions sur l'avenir et le futur de ces générations. En vous souhaitant une excellente journée et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.